au lieu d'être victime de la fatalité? Ben, servez-vous-en.
Tu n'échapperas pas à ton destin, jeune Skywalker.
Vous avez reconnu évidemment une pâle imitation de Darth Vader dans le 5e épisode de Star Wars. Darth Vader qui révèle à Luke Skywalker, dont on ne sait pas à ce moment-là que Luke Skywalker est le fils de Darth Vader, et ce sont des ennemis absolument mortels, ce sont des ennemis jurés. Et Darth Vader répète cette phrase, et l'empereur aussi, donc, de l'Empire, donc l'empereur répète aussi à Luke Skywalker, qui est le héros de cette saga de Star Wars, « Tu n'échapperas pas à ton destin ». Et c'est vrai que c'est une idée qui est très, très ancrée dans notre inconscient collectif. C'est cette notion de destin, c'est cette notion de fatalité à laquelle nous ne pouvons pas échapper. C'est comme si nous, les êtres humains, nous étions porteurs de malédictions qui faisaient que nous ne pouvions pas échapper à ce qui était écrit avant notre naissance. Et en préparant cette vidéo, je me suis souvenu de mes cours de philosophie que je suivais à l'université de Namur en Belgique dans les années 80, et je me suis souvenu qu'on nous avait enseigné que le monde occidental a hérité de cette notion de fatalité des anciens Grecs, hein, donc des mythes de la Grèce antique, donc 5e, 6e, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, ces mythes qui essayaient d'expliquer aux gens de l'époque la signification de leur monde. Hein. Je dirais que l'être humain a toujours cherché le sens de sa présence sur Terre et le sens aussi des événements qui pouvaient être qualifiés de fatalité. Bien. Et il y a probablement un mythe qui est très très particulier dans la tradition de la Grèce, c'est le mythe d'Œdipe. Alors bon, vous connaissez tous le complexe d'Œdipe, mais connaissez-vous le mythe d'Œdipe, hein, l'histoire réelle d'Œdipe? Parce que bon, on sait que le complexe d'Œdipe, c'est le petit garçon qui est attiré par sa maman et c'est la petite fille qui est attirée par son papa. Bon, ça c'est ce que la psychologie et Freud en particulier en ont retenu. Mais il y a toute une histoire autour du mythe d'Œdipe. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter le mythe d'Œdipe dans son entièreté, mais je vous donne juste les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est que Laios et Jocaste, donc Laios, c'est le roi de Thèbes, et Jocaste, c'est sa femme, attendent un bébé. Et comme ça se fait d'habitude en Grèce, Laios va trouver un oracle pour demander quelle sera la destinée de cet enfant. Et l'oracle lui répond sans embâge, cet enfant, il tuera son père et épousera sa mère. Alors Laios qui entend ça se dit, oui, il faut que je fasse quelque chose au moment de la naissance de mon enfant. Donc l'enfant naît, c'est un garçon, et dès que l'enfant naît, il se saisit de l'enfant, il lui lie les pieds, il lui transperce les pieds, il le donne à un esclave et il lui dit, va le perdre en haut de la montagne pour qu'il soit dévoré par les bêtes sauvages et qu'on n'entende plus parler parce que, évidemment, Laios veut échapper à son destin. Bien. Et évidemment, c'est comme dans le mythe de Blanche-Neige aussi, etc. Donc, le serviteur prend pitié de ce bébé, ne le tue pas, le confie à un berger, qui le confie au roi de Corinthe, qui l'élève comme son propre fils, jusqu'au moment où Œdipe, hein, et Œdipe, ça veut dire celui qui a les pieds enflés, évidemment, avec ce qu'on lui avait fait au moment de la naissance, on peut le comprendre. Œdipe apprend au moment où il est adulte qu'en réalité, il est un enfant trouvé et que peut-être il n'est pas le fils de son père, c'est-à-dire le roi de Corinthe, qui l'avait recueilli. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Bon, parce qu'en Grèce, il y a souvent beaucoup d'histoires de famille dans lesquelles il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, Œdipe, quand il apprend cela, va voir un oracle, et l'oracle lui dit « Écoute, je te préviens, tu vas tuer ton père et tu vas épouser ta mère. » Et alors Oedipe qui dit « Eh oh, ça va il n'est pas question. » Donc du coup, il ne rentre pas à Corinthe parce qu'à ce moment-là, il est un peu dans la confusion mentale. Il se dit « Mon père, c'est-à-dire le roi de Corinthe, je ne vais pas le tuer, là, je ne vais pas épouser celle qui m'a élevé. Non, je pars dans la direction opposée, je pars vers Thèbes. » Mais Thèbes, je vous rappelle que c'est le lieu où il est né. Hein, et comme par hasard, il revient vers son lieu de naissance. Sur le chemin de Thèbes, il croise un voyageur un peu prétentieux. Comme Oedipe a un sang assez bouillant et un sang assez chaud, il dégaine son épée et boum, il tue ce voyageur orgueilleux et insolent, sans savoir qu'évidemment, il vient de tuer son propre père. Voilà. Puis, en arrivant à Thèbes, il résout l'énigme du Sphinx, qui est une bête absolument immonde qui effraie tous les voyageurs. Et si on ne parvient pas à répondre à l'énigme, on se fait dévorer par le Sphinx. Oedipe trouve tout de suite la réponse à l'énigme. Il terrasse le Sphinx. Et du coup, pour le remercier, les habitants de Thèbes, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils n'ont pas de meilleure idée que de lui offrir leur reine, qui est veuve de Laios, leur reine comme épouse. Et Oedipe, évidemment, accepte avec grand plaisir, comme un honneur, d'épouser la reine de Thèbes. Il a 4 enfants avec cette femme. Et il vit de très nombreuses années très heureux avec celle qui est sa mère, mais il ignore évidemment que c'est sa mère, donc il a 2 fils et 2 filles, dont Andromaque, jusqu'au moment où évidemment la peste s'abat. Donc vous voyez, cette notion de fatalité qui est là tout le temps, hein, on essaye chaque fois d'échapper, on espère avoir un peu plus de bonheur, et puis à chaque fois, boum, ça retombe. Donc la peste s'abat sur Thèbes, là un oracle de nouveau dit à Oedipe, qui est devenu roi, évidemment, de Thèbes, en épousant sa mère, en épousant Jocaste, lui dit « Écoute, tant qu'on n'aura pas puni le meurtrier du roi, eh bien, la peste va continuer à disséminer la population de Thèbes. » Et à cette époque-là, Oedipe ne sait toujours pas que celui qu'il a tué sur le chemin, lui, il pensait que c'était un voyageur, mais en réalité, il ne savait pas que c'était le roi Laios. Et donc, quand la vérité éclate, eh bien, là, Jocaste comprend que ça fait des années qu'elle couche avec son propre fils, donc elle se suicide. Oedipe, découvrant que son épouse et sa mère viennent de se suicider, lui, il se crève les yeux en signe de pénitence, si vous voulez, et il va terminer sa vie en cherchant le repentir à Ithaque, guidé par sa fille Andromaque. Voilà. Et c'est seulement à la fin de sa vie qu'il va trouver le repos et la paix, et il va pouvoir mourir en paix. Fin de l'histoire, fin de l'épisode, absolument atroce. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que finalement, Oedipe commence à voir clair au moment où il se crève les yeux. Hein, et effectivement, c'est ça que je veux vous amener à voir aujourd'hui. Hein, vous savez que dans mes vidéos, dans mes petites capsules vidéo sur YouTube, j'essaye toujours de vous montrer un autre regard, de vous inviter à poser un autre regard sur la réalité. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et la citation que je voudrais, avec laquelle je voudrais travailler aujourd'hui avec vous sur comment finalement échapper à la fatalité, c'est une citation de quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je l'ai cité déjà à plusieurs reprises, c'est Carl Gustav Jung. Et Carl Gustav Jung disait cette phrase très très juste et très très vraie. Il disait « Tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience se manifestera comme le destin ou la fatalité. » Hein? Alors, je répète encore une fois pour que vous ayez le temps de noter. Tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience, donc tout ce que nous aurons laissé dans l'inconscient, hein? Tout ce que nous aurons refusé de voir, tout ce que nous aurons refusé de conscientiser, eh bien, se manifestera dans notre vie comme le destin ou la fatalité. C'est-à-dire qu'on aura l'impression d'être victime des événements, alors qu'en réalité, nous n'avons été que le complice et l'artisan de cette destinée fatale. D'accord ? Vous me suivez jusqu'à là ? Bien. Alors, Pour illustrer ça, j'aimerais vous donner quelques exemples que j'ai préparés pour vous, pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Alors, je vais prendre des exemples des plus simplistes aux plus complexes et des exemples des plus accessibles en termes de conscience jusqu'aux exemples les moins accessibles en termes de conscience. Alors, premier exemple, c'est, admettons que vous avez bu toute la soirée avec vos amis, vous prenez la voiture, vous roulez comme un dératé, etc. C'est-à-dire vous êtes imprudent, vous êtes inconscient, mais dans le sens de vous êtes inconscient des conséquences possibles de votre conduite en état d'ivresse, en envoyant des SMS en même temps, tout en étant au volant de la voiture qui roule à des vitesses absolument incroyables, et vous augmentez en tout cas la probabilité de faire un accident. Et si vous faites un accident de voiture, on pourrait dire « Oh, le malheureux, il a fait un accident de voiture », donc vous pourriez vous sentir vous-même victime et malheureux en disant « Oh là là, quelle fatalité s'est abattue sur ma tête, j'ai fait un accident de voiture, je n'y peux rien », etc. Alors qu'en réalité, vous y pouvez, c'est-à-dire que ce qui est apparu comme la fatalité, c'est juste la conséquence de votre inconscience. Voilà, premier niveau d'interprétation de cette phrase de Jung, mais il y en a des plus élevées, plus intéressantes. Deuxième niveau d'interprétation, c'est chaque fois que vous n'êtes pas centré, chaque fois que vous n'êtes pas conscient des gestes que vous posez, parce que vous êtes préoccupé. J'ai connu comme ça une femme qui était sous le coup de l'émotion, voulait prévenir quelqu'un de quelque chose à une fête de famille et a couru sans voir qu'il y avait un pot de fleurs dans son chemin et elle s'est cassée les deux pieds en même temps. Il faut le faire quand même, se casser les deux pieds en même temps. Évidemment, tout le monde a dit « Oh là là !» Tout le monde l'a plaint en disant « Oh mon Dieu, quelle fatalité s'est abattue sur toi, ma pauvre, tu ne peux même plus marcher sur un pied puisque les deux pieds étaient cassés. » Mais en même temps, si vous regardez la scène, il n'y avait pas de conscience dans la course de cette femme. Elle était tellement obnubilée par le fait d'aller porter la nouvelle à quelqu'un qu'elle avait lâché la conscience corporelle. Et donc, elle n'avait plus de conscience de ce que son corps faisait. Et du coup, l'accident l'a ramenée dans la conscience de son corps. Donc on pourrait dire que la fatalité, quelque part, c'est un cadeau. Et c'est un peu vers là que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. C'est que la fatalité vous ramène votre réalité devant vos yeux. Le roi Laios a essayé d'échapper à la fatalité et la fatalité lui a été présentée devant les yeux. Il avait son fils devant lui. D'accord ? Œdipe lui-même a essayé d'échapper à la fatalité, il avait la réalité devant lui et il ne l'a pas vue. Et c'est seulement au moment où il s'est crevé les yeux que là, il a enfin vu ce à quoi il a essayé d'échapper toute sa vie. D'accord ? Même chose pour Jocaste. Jocaste devait sentir, devait avoir l'intuition quand même que celui avec qui elle couchait tous les soirs était son fils, était quelqu'un qui était connu, ce n'était pas un inconnu total. Mais le fait de ne pas regarder fait que la fatalité vous ramène l'information. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire que la vie est vachement bien faite parce que tout ce qui vous arrive comme fatalité, moi, je vous invite à la regarder comme « Waouh, c'est une information nouvelle qui est en train d'essayer de m'être révélée. » Et « révélée », ça vient du latin, et « velis », ça veut dire « le voile ». Donc « révélée », c'est « on a enlevé le voile ». On m'a enfin montré la réalité telle qu'elle est. Allez, je vous donne encore quelques autres exemples pour que vous compreniez bien comment vous pouvez utiliser cette phrase de Jung. Donc, allez. Une troisième façon d'interpréter ça, qui est encore un niveau un peu plus élevé, un peu plus élaboré en termes de conscience, c'est de décider de faire l'autruche. Je décide de faire l'autruche, c'est-à-dire je connais la réalité, je sais que je dépense plus que ce que je gagne, par exemple, mais j'ai décidé de faire comme si un miracle allait se passer dans ma vie à un moment donné. Jusqu'au jour où le huissier va sonner à ma porte pour saisir mes meubles. Donc ce jour-là, je vais vivre cette arrivée du huissier comme la fatalité, alors qu'en réalité, je n'ai été de nouveau que le créateur de cette fatalité parce que j'ai fait l'autruche pendant des mois ou des années. Même chose, j'ai connu plusieurs femmes qui savaient très bien, qui sentaient très bien que leur mari les trompait, mais elles préféraient faire comme si elles ne savaient pas. Elles préféraient faire comme si rien ne se passait au niveau de leur mari. Jusqu'au jour où leur mari leur a annoncé qu'il les quittait. Oh, quelle fatalité! Mais non, ce n'est pas une fatalité. Attendez, si vous vous doutez de quelque chose et que vous ne faites rien, que vous ne préparez rien, etc., ne vous plaignez pas. Vous avez des rumeurs au niveau de votre entreprise que l'entreprise commence à avoir des difficultés, etc. Et vous dites, surtout ne bougeons pas pour vivre heureux, vivons cachés, et surtout ne nous faisons pas remarquer, comme ça j'espère qu'on ne pensera pas à moi au moment où les licenciements vont arriver. Et évidemment, quand vous aurez fait plus de bruit du tout, eh bien, à qui est-ce qu'on va penser, d'après vous, pour faire partie de la première vague de licenciement? Eh bien, c'est vous, parce que vous n'aurez plus fait de bruit, vous ne vous serez plus fait remarquer, et donc probablement que vous ferez partie des premiers à être licenciés, etc., etc. Donc, vous voyez, je rigole beaucoup ici pour alléger le sujet, mais ça nous tombe dessus chaque fois comme la fatalité, alors qu'en réalité, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat de nos choix inconscients. Allez, je vous donne encore un autre exemple. Quelqu'un qui est totalement inconscient de sa façon de communiquer, sa façon irrespectueuse de communiquer, eh bien, il va vivre toute une série de ruptures relationnelles. Mais ces ruptures relationnelles, à nouveau, il va les vivre comme une fatalité en disant « Oh, moi, j'ai pas de chance avec les femmes » ou « J'ai pas de chance avec mes collègues de travail » ou « Je n'ai pas de chance avec mes copains et mes camarades »« Je n'ai pas de chance avec l'équipe dans laquelle j'évolue au niveau sportif, etc. Hein? » Vous vous sentez victime de nouveau de la fatalité alors qu'en réalité, vous n'avez simplement pas accepté de regarder votre façon de communiquer. Tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience se manifestera comme le destin ou la fatalité. Bon. Puis après, il y a des choses qui sont beaucoup plus inconscientes. Par exemple, quelqu'un qui a été abusé sexuellement dans son enfance, eh bien, risque peut-être de rencontrer régulièrement des difficultés dans sa vie sexuelle, de rencontrer des difficultés à avoir une vie conjugale épanouissante, ou même risque de répéter le schéma d'abus en étant arrivé à l'âge adulte. Et donc, vous avez beaucoup de femmes abusées à l'âge adulte qui ne sont même pas conscientes qu'elles ont été abusées lorsqu'elles étaient toutes petites, mais c'était un moment où elles n'avaient absolument pas les moyens de se souvenir de ce qui s'est passé dans leur petite enfance. Donc ça aussi, c'est une illustration, évidemment, de tout ce que je n'aurais pas ramené à la conscience se manifestera comme le destin ou la fatalité. Un dernier exemple, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo, ce sont les secrets de famille. Je ne suis pas le fils de mon père, je ne suis pas le fils je ne suis pas le fils de mon père, je ne suis pas la fille de mon père, je suis la fille du curé, je suis le fils du voisin, le fils de l'oncle, le fils de l'amant de ma mère, etc., etc. Et là, évidemment, nous n'avons aucune information concernant ces secrets de famille qui sont des secrets bien, bien gardés. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux vous recommander pour échapper à votre fatalité finalement? Eh bien, c'est plusieurs choses. Un, ouvrir les yeux. Donc, faites comme Oedipe qui finalement s'est ouvert ses vrais yeux, ses véritables yeux au moment où il s'est crevé les yeux. Il a changé de regard. Donc, en fait, c'est ça que le mythe veut dire. Quand il se crève les yeux, évidemment, il veut voir les choses de manière totalement nouvelle. C'est un peu comme dans Matrix aussi, dans le troisième épisode de Matrix, où vous avez Neo qui a les yeux crevés et qui, pourtant, grâce à cela, va voir la réalité de façon totalement différente et va pouvoir sauver le peuple de Sion. Eh bien, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est donc première chose, ouvrez les yeux. Acceptez d'ouvrir les yeux sur la réalité, même si cette réalité est inconfortable, même si cette réalité vous plonge dans l'embarras ou dans la honte. Deuxième chose, eh bien, repérer les situations répétitives. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, la fatalité, elle se remanifeste à vous de façon régulière avec une intention positive. La vie a une intention positive vis-à-vis de vous. Et cette intention positive, c'est simplement de vous interpeller en vous invitant à enfin prendre conscience de ce dont vous n'êtes pas conscient jusque maintenant. Donc, et comment est-ce que vous allez savoir qu'il y a des choses, des messages qui vous sont envoyés par la vie? Eh bien, tout simplement, en regardant les choses qui se répètent dans votre vie. Donc, si vous avez répété 5 ruptures amoureuses l'une derrière l'autre, c'est que probablement, il y a une fatalité qui est provoquée par quelque chose qui est inconscient chez vous et dont vous n'avez pas encore fait le travail de regarder en face les choses. D'accord? Et donc, accueillez cette fatalité comme un messager de quelque chose qui ne demande qu'à être révélé dans votre histoire personnelle ou collective.